La tolérance fut l'un des grands combats intellectuels du XVIIIe siècle. Dans cette chronique, Monique Brugge-Moncassin nous montre comment Montesquieu en fut l'un des plus ardents défenseurs. Bonjour Monique.
Bonjour.
La tolérance est un état d'esprit, non ?
Je dirais que Montesquieu est entré en tolérance par sa famille.
Ah.
N'oublions jamais que ses arrière-grands-parents, protestants très liés à Henri IV, se sont convertis au catholicisme en même temps que lui. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce qu'il épouse une fausse catholique, mais vraie protestante, et qu'il la laisse vivre sa foi, discrète à Bordeaux, mais visible à Agen. Il est donc bien placé pour constater que toutes les religions, dans leur pratique, peuvent être critiquées ou relativisées. Dans la lettre persane 29, la satire du pape et des évêques est impitoyable, ce qui lui causera des soucis jusque sur son lit de mort. À Bordeaux, il sait que les protestants sont enterrés clandestinement. Son père et lui ont été ulcérés par les représailles qui se poursuivent même après la révocation de l'édit de Nantes en 1685. En 21, il écrit « Ce n'est point la multiplicité des religions qui produit les guerres, mais l'esprit d'intolérance qui anime celle qui se croit la dominante. » Tolérant aussi, après ses 10 années dans la magistrature, au Parlement de Guyenne, conseiller de la Chambre d'accusation, il a été le témoin désabusé des dérives d'une justice à charge, exercée par des juges et des avocats peu compétents et souvent corrompus. Dans son discours de rentrée du Parlement en 25, il adresse aux magistrats des exigences de qualité morale, d'obligation d'équité, de la nécessité de montrer l'exemple, etc. Il sera vraiment convaincu que les droits des justiciables sont bafoués lorsqu'il aura bien compris le système de l'habeas corpus judiciaire en Angleterre. Le Parlement y veille à permettre à chaque citoyen d'échapper à l'arbitraire royal et aux abus du pouvoir. Il n'oubliera pas cela dans l'esprit des lois. Chez nous, les lettres de cachet en sont le pire exemple. Et que dire de l'intolérance et de l'injustice vis-à-vis des femmes et des filles ? Il s'insurge contre le refus de les instruire. D'autre part, comme ses tantes et ses sœurs, elles sont souvent placées au couvent pour toute leur vie. Un jour, il écrit à sa toute jeune fille Denise, qui a 16 ans, « J'ai gagné mon procès, ma fille. Vous ne serez pas religieuse. » Et il l'envoie dans un bon collège parisien. Il faut savoir qu'il dépensait de l'argent pour ce procès,
oui.
Et il était très inquiet.
D'accord.
Pour la dot.
Mmh. Et oui.
Les pères, puis les maris, ensuite, ont tout pouvoir sur elle. Et là aussi, il affirme dans son roman que la condition des femmes est injuste, car, je cite, « les forces seraient égales si l'éducation l'était aussi ». Dans tous ses ouvrages, il présente ce que les discussions avec les meilleurs esprits du siècle, sans oublier la liberté de penser partagée avec ses amis francs-maçons, lui ont permis d'énoncer sur tous les sujets de société. Ainsi, il ose se prononcer pour le suicide comme la liberté suprême de l'homme, avec un grand H. On en a embastillé pour moins que ça, et l'excommunication vous guette, même mort, rejaillissant sur votre famille. Exil social assuré. Nous retrouvons ce point de vue dans la sublime lettre finale de Roxane, la favorite, en adieu au sultan, lorsqu'elle lui annonce elle-même aimer un autre homme, décapité illico, bien sûr. Et là, Montesquieu l'a fait se suicider, exprimant que son acte ultime, c'est celui de sa totale liberté, la vie ou la mort. Mais comment a-t-il réussi à si bien ressentir les pensées féminines de son héroïne ? Et quelle audace à son époque ! Tolérant en 1748, il le prouve dans le chapitre de l'Esprit des lois sur l'esclavage. Il passe en revue toutes les formes anciennes ou actuelles, les justifiant historiquement ou économiquement, et paf ! Au détour d'un chapitre, sans qu'on s'y attende, il fait la critique imparable de l'esclavage des nègres, c'est le titre, en retournant avec finesse les arguments précédents. C'est un des meilleurs exemples du style et de l'esprit subtil de Montesquieu. Et il recommence à la fin d'un grand chapitre sur la ou les religions. Il quitte le ton sociologique employé dans tout son livre et insère un cinglant manifeste intitulé « Très humble remontrance aux inquisiteurs d'Espagne et du Portugal ». La première phrase est percutante, une jeune juive de 18 ans brûlée à Lisbonne au dernier auto-da-fé, etc. Puis s'ensuit un raisonnement aussi édifiant que celui sur l'esclavage. Car il a été révolté par ce qui s'y est produit, effectivement, en 1731. « Vous vous plaignez, dit-il dans cette lettre, aux inquisiteurs, de ce que l'empereur du Japon fait brûler à petit feu des chrétiens qui sont dans son pays. Mais il vous répondra, nous vous traitons, vous qui ne croyez pas comme nous, comme vous traitez vous-même ceux qui ne croient pas comme vous. » Montesquieu n'est pas tolérant par affirmation, il l'est par démonstration.
Eh bien, merci beaucoup, Monique, pour ce témoignage de l'esprit de tolérance et l'esprit d'ouverture de Montesquieu et qui aurait besoin d'être mis en application aujourd'hui. Demain, eh bien, nous arriverons déjà aux dernières années de Montesquieu et nous évoquerons sa mort. Au revoir, Monique.
Au revoir.